Alors bonjour à tous et puis merci d'être aussi nombreux. Enfin, je suis très touchée, donc merci infiniment. Alors la voix est un peu abîmée ce soir, je m'en excuse. Et pour aider à supporter la voix, j'ai demandé à deux autres collègues de venir et de lire aussi avec moi ces nouvelles pour que vous puissiez aussi entendre d'autres voix alors plutôt occitanes puisque ce sont des collègues d'occitan mais qui vont lire en français et non pas non plus en ancien français. Ces voix multiples, ces voix différentes, parce que la nouvelle est par définition un genre qui se dit et un genre qui se redit. C'est un genre de la circulation, avec le fantasme d'un cercle conteur qui se passe la parole pour le plaisir de ces nouvelles qui circulent. Alors aujourd'hui, le propos était de vous faire entendre ces nouvelles du Moyen-Âge et surtout de vous faire entendre leur modernité. Alors vous allez voir, lors de cette traduction, puisque c'est l'objet de cet ouvrage-là, de mettre à disposition d'un public non spécialiste des nouvelles qui nous viennent de très très loin, on a toujours tendance à penser que la nouvelle est un genre extrêmement moderne, donc vous en connaissez. Le plus souvent, ça va être les nouvelles de Maupassant, qui sont des nouvelles assez longues. Alors la question peut se poser de est-ce qu'elle rentre dans le cadre de ce qu'on définit comme une nouvelle ? Vous connaissez aussi des recueils plus contemporains, certains apprécient les recueils de Borges. Donc vous voyez, ce n'est pas un genre franco-français. Et on a toujours tendance à penser pour la France que les nouvelles naissent à la Renaissance, donc au XVIe siècle. Eh bien non, c'était l'objet de cet ouvrage-là, de montrer que les nouvelles naissaient bien avant, donc entre le XIIIe et le XVe siècle. C'était un genre aussi français, puisqu'on dit souvent que c'est un genre italien. Ça peut être aussi un genre occitan, ça peut être l'occasion d'y revenir lors de questions ou pas. Voilà, et essayer de les mettre donc à disposition en français et de respecter ce qui est leur caractère un petit peu étonnant, à savoir des redites. Alors je vais m'arrêter juste deux secondes pour un petit peu vous sensibiliser à ça, parce que vous allez l'entendre et le réentendre, à savoir que la nouvelle au Moyen-Âge est un genre qui se dit comme bref, donc les textes vont toujours nous répéter pour abréger et pour faire bref, et en même temps, la nouvelle est un genre qui piétine, c'est-à-dire qu'on va nous répéter sans arrêt les mêmes choses. Donc, il va falloir se sensibiliser, en tout cas, à ce plaisir de la redite, de quelque chose qui va être dans la répétition et qui, d'un coup, va éclater de façon épiphanique. Alors, ça sera peut-être le bon mot, ça sera peut-être l'arroseur arrosé, ça sera peut-être le comique de situation. Donc, on aura à la fin de la nouvelle quelque chose qui va arriver de façon épiphanique, qui va éclater, pour nous proposer un retournement. Donc il faudra, vous lecteurs, que vous mainteniez l'attention, on va dire jusqu'au bout, pour attendre cette fin, fin qui est souvent considérée comme étant une chute. Et donc vous risquez d'être surpris par cette traduction, en tout cas, qui avait pour projet de rester très près du texte. Vous aurez donc des expressions un petit peu bizarres, à savoir, par exemple, dans les enseignements du chevalier de la Tour Landry, le texte nous dit « Elle fut tuée et déshonorée ». Alors vous voyez, ça c'est tragique, mais l'ordre normal en français, on attendrait « fut déshonorée puis tuée ». Donc vous allez avoir des expressions où le texte va inverser ce qui, pour nous, apparaît comme une logique qui devient folle. Alors beaucoup de duos, beaucoup de répétitions, beaucoup de synonymes, alors que la nouvelle, par définition, souhaite aller vite. Donc c'est un petit peu ce plaisir défini par Erasme qui est celui du « hâte-toi lentement ». C'est-à-dire qu'on se presse, on se précipite, mais avec une sorte de douceur, avec une sorte de lenteur, qui est le plaisir du texte. Alors je vais essayer de vous donner ce goût du texte, donc ne pas vous retenir trop longtemps dans ce plaisir de la lecture. Ça sera peut-être l'occasion de revenir après si vous avez des questions sur le texte. En tout cas, cette traduction a voulu mettre, enfin choisir, des textes qui peuvent être très différents, donc à la fois tragiques, à la fois comiques. Et cette lecture s'est fondée aujourd'hui sur un des recueils qui a été pris pour cette traduction, qui est un des recueils centraux, qui sont les 100 nouvelles nouvelles. Donc les textes sont des textes qui sont autour des années 1450. Donc 100 nouvelles nouvelles qui revendiquent, vous le voyez, le plaisir de la nouveauté, hein, des nouvelles qui sont nouvelles, par opposition au Décaméron de Boccace, les 100 nouvelles, qui, elles, ne seraient que nouvelles. Alors, on va se succéder pour vous en lire quelques-unes, voilà, en espérant vous faire entendre ces mots qui vont être à la fois étrangers, vous avez l'habitude pour certains, et à la fois nouveaux, puisque c'est cette nouveauté, bien entendu, que revendiquent les nouvelles. Voilà, donc je vais laisser la parole à ma collègue.
Merci. La 47e nouvelle par Monseigneur de la Roche. En Provence vivait il n'y a pas longtemps un président du Parlement de grande et excellente renommée qui était parfaitement instruit et extrêmement prudent, vaillant au combat comme discret dans ses conseils. En bref, pour tout dire, on trouvait en lui toutes les qualités qui font que l'on peut louer un homme. Mais il y avait une seule chose dont il n'avait pas été doté, ce dont il n'était pas responsable, mais qui le rendait plus malheureux que quiconque, et la raison en était légitime. S'il faut dire la qualité honorifique qui l'affublait, c'était le mot de cocu, parce qu'il avait une femme qui était tout sauf honnête. Le sage homme, savait et connaissait la déloyauté de sa femme et la voyait disposée en tout point à la débauche. Et, malgré toute l'intelligence dont Dieu l'avait pourvu, il ne trouvait pas de remède à son cas, si ce n'était de se taire et de faire le mort. Car, en son temps, il avait tant vu et lu qu'il savait pertinemment qu'il était impossible de corriger une femme de cette espèce. Toutefois, vous pouvez imaginer que c'était un homme rempli de courage et de vertu, et, cela étant, il ne vivait pas confortablement. Il faut ajouter encore, pour terminer, que son cœur souffrant se consumait à petit feu à cause de cette maudite maladie. Comme à l'extérieur il faisait semblant et se comportait comme s'il ignorait tout du comportement de sa femme, un de ses serviteurs vint le trouver un jour en privé dans sa chambre et par un grand discours lui avoua : « Monsieur, je suis celui qui tient à vous avertir, puisque c'est mon devoir, de tout ce qui touche à votre honneur. Je me suis appliqué et donné du mal à surveiller le comportement de Madame votre épouse et je vous assure qu'elle veille très mal sur la promesse de fidélité qu'elle vous a faite. Car en vérité, Machin, qu'il lui nomma, occupe votre place bien souvent. » Le bon président, connaissant aussi bien, voire même mieux que son serviteur qui lui en faisait le rapport, le comportement de sa femme, lui répondit très durement : « Ah, vaut rien. Je sais bien que tout ce que vous me dites n'est que mensonge. Je connais parfaitement ma femme. Elle n'est pas comme cela, non, assurément. Vous ai-je engagé pour que vous me rapportiez un tel mensonge, surtout à propos de celle qui est si honnête et si loyale ? Vraiment, vous ne m'en raconterez pas davantage. Dites-moi ce que je vous dois et fichez-moi le camp tout de suite et ne vous présentez jamais devant moi pour peu que vous teniez un tant soit peu à votre vie. » Le pauvre serviteur, qui pensait ainsi faire grand plaisir à son maître en l'avertissant de la sorte, lui dit ce qu'il lui devait. Il reçut son solde et s'en alla. Notre président, voyant de jour en jour se répéter la déloyauté de sa femme, était si mécontent et tellement troublé qu'on ne saurait l'être davantage. Il ne savait plus que penser ou quoi imaginer comme moyen pour s'en débarrasser honnêtement. Mais à la faveur de Dieu ou de fortune qui y consentirent, il se rappela que sa femme devait se rendre à un mariage dans peu de temps. Il pensa alors que si ce dont il rêvait pouvait arriver, il en serait le plus chanceux du monde. Il alla trouver un serviteur qui était chargé de s'occuper de ses chevaux et d'une belle mule qu'il possédait aussi, et lui dit : « Veille à ne pas donner à boire à ma mule de jour comme de nuit, jusqu'à ce que je te le dise. Chaque fois que tu lui donneras son avoine, mets-y dedans une grosse poignée de sel. Prends garde à ne pas en dire un mot à quiconque. » « C'est d'accord, dit le serviteur. Je ferai exactement comme vous me l'avez ordonné. » Quand le jour des noces de la cousine de madame la présidente approcha, elle dit au bon président : « Monsieur, si vous le voulez bien, je me rendrai volontiers aux noces de ma cousine qui auront lieu dimanche à tel endroit. » « Très bien, mamie, j'en suis très heureux. Allez-y donc et que Dieu vous accompagne. » « Je vous remercie, monsieur, dit-elle, mais je ne sais vraiment pas comment y aller. Je ne veux pas partir avec mon carrosse pour le peu que j'ai à y rester. Quant à votre jument, elle est si peureuse que je crains de faire le chemin sur son dos. » « Eh bien, mamie, prenez donc ma mule. Elle est très élégante et va à bon train, mais tout en douceur, et jamais je n'en ai trouvé une qui ait le pied aussi sûr. » « Ma foi, monsieur, dit-elle, je vous en remercie, vous êtes un excellent mari. » Le jour du départ arriva et les serviteurs de madame la présidente ainsi que les servantes qui devaient l'accompagner et la servir se tinrent prêts. De même, deux ou trois élégants qui devaient l'accompagner arrivèrent à cheval et demandèrent si madame était prête. Et elle leur fit savoir qu'elle arrivait bientôt. Elle fut enfin prête et descendit. La belle mule lui fut amenée au montoir, laquelle n'avait pas bu de 8 jours. La soif la rendait folle, tant elle avait mangé de sel. Quand madame fut montée sur la mule, les élégants se mirent en tête, faisant gambader leurs chevaux, les faisant bondir avec adresse et avec hauteur comme des enragés. Il n'est pas à douter que plus d'un dans la troupe connaissait ce que madame savait faire. En compagnie de ses gentils élégants, de ses serviteurs et de ses servantes, madame traversa la ville et arriva au beau milieu des champs. Elle chevaucha tant qu'elle parvint à un passage étroit auprès duquel passe le fleuve du Rhône et qui, en cet endroit, est incroyablement impétueux. Lorsque cette mule, qui n'avait pas bu de 8 jours, aperçut cette rivière, à la course et sans se préoccuper de savoir s'il y avait un pont ou un passage, elle vola presque en sautant et se jeta dedans avec tout son chargement, c'est-à-dire le précieux corps de madame. Ceux qui assistèrent à la scène l'observèrent attentivement, mais ils ne lui furent pas d'autre secours car ils en étaient incapables. Ainsi se noya madame et ce fut une grande perte. Quant à la mule, quand elle eut bu tout son soûl, elle nagea comme elle put dans le Rhône pour atteindre la rive. C'est ainsi qu'elle fut sauvée. L'assemblée fut très troublée d'avoir perdu madame et tout le monde s'en retourna en ville. L'un des serviteurs de monsieur le président vint le trouver dans sa chambre, lequel n'attendait rien d'autre que les nouvelles qu'il avait lui annoncées en larmes. Il lui raconta la pitoyable mésaventure de madame sa maîtresse. Le bon président, dont le cœur ressentait plus de joie que toute la tristesse qu'il avait déjà éprouvée, se montra profondément affligé. De fait, il se laissa tomber de toute sa hauteur, se lamentant avec désespoir et regrettant sa chère épouse. Il maudissait sa mule ainsi que les belles noces qui firent partir de sa femme ce jour-là. « Et Dieu, dit-il, vous méritez un grand reproche, vous qui étiez si nombreux et qui n'avez su secourir cette pauvre femme qui vous aimait tant, vous êtes lâche et misérable et vous l'avez ici bien démontré. » Le serviteur s'excusa, ainsi que tous les autres, du mieux qu'ils le purent, et ils laissèrent seul monsieur le président qui loua Dieu à main jointe de l'avoir libéré de sa femme. Quand ce fut l'heure, il lui fit faire des funérailles comme il se devait. Mais soyez assurés que, bien qu'ayant encore l'âge de le faire, il prit garde à ne pas se relaisser prendre par les liens du mariage, tant il redoutait les tourments dans lesquels il avait vécu.
Alors vous le voyez ici, une nouvelle un petit peu digne de Boileau et Narcejacques, hein, dans la machination, dans la manipulation. Donc c'était aussi pour vous montrer cette modernité-là qui pourrait servir de scénario pratiquement policier, mais version médiévale, hein, à comment tuer sa femme en faisant accuser la mule, ou en tout cas les amis de sa femme. Alors une nouvelle comique pour prendre la suite.
La 6e nouvelle par Monseigneur de Lannoy. Dans la ville de La Haye, en Hollande, alors que le prieur des Augustins se promenait, il y a peu, en disant ses heures, sur le soir, pas très loin de la chapelle de Saint-Antoine, située dans un bois proche de la dite ville, il rencontra un grand et robuste Hollandais, tellement ivre que c'était impensable, qui habitait dans un village nommé Schiveling, à 2 lieues de là. Le prieur, le voyant venir de loin, se rendit vite compte que de son état, par la démarche lourde et mal assurée qu'il avait en cheminant. Et quand ils se croisèrent, l'un, l'autre, l'ivrogne, salua en premier le prieur qui lui rendit aussitôt son salut et qui poursuivit ainsi son chemin sans interrompre ses prières et sans arrêter ni questionner l'autre sur quoi que ce soit. L'ivrogne, plus outré qu'il ne sut l'être, fit demi-tour et poursuivit le prieur en lui demandant la confession. « Une confession, dit le prieur, va-t'en, va-t'en, tu t'es déjà assez confessé comme cela. » « Hélas, mon père, répondit l'ivrogne, pour l'amour de Dieu, confessez-moi. J'ai à cette heure une mémoire très fraîche de mes péchés et j'éprouve une parfaite contrition. » Le prieur, mécontent d'être retenu de la sorte par cet ivrogne, répondit « Passe ton chemin. Tu n'as pas besoin d'une confession supplémentaire, tu n'as rien sur la conscience. » « Ah, allons, dit l'ivrogne, sacrebleu, vous allez me confesser, mon père, car j'ai de la dévotion. » Et il le saisit par la manche et tenta de le retenir. Le prieur ne voulait rien entendre et il n'avait qu'une seule envie, c'était d'échapper à l'autre. Mais rien n'y faisait. Car l'autre s'était mis dans la tête qu'il voulait être confessé, ce que le prieur n'avait de cesse de refuser, et il croyait bien s'en débarrasser mais n'y parvenait pas. La dévotion de l'ivrogne grandit de plus en plus. Et quand il vit que le prieur refusait d'entendre ses péchés, il mit sa main à son gras coutelas, le tira de sa gaine et dit au curé qu'il le tuerait s'il n'écoutait pas sur le champ sa confession. Le prêtre, redoutant le couteau et la dangereuse main qui le tenait, ne sut que dire. Il demanda à l'autre. « Que veux-tu dire ?»« Je veux me confesser, » dit l'autre. « Eh bien, c'est d'accord, » dit le prieur. « Avance-toi. » Notre ivrogne, plus étourdi qu'une grive quittant une vigne, commença, si vous m'autorisez l'expression, sa dévote confession, sur laquelle je passe car le prêtre ne la rendit pas publique. Mais vous pouvez cependant vous imaginer combien elle fut surprenante et étrange. Quand le prieur vit son état, il coupa court aux longues et confuses déclarations de notre ivrogne et lui administra l'absolution. Et il lui donna congé en disant « Va-t'en, car tu t'es très bien confessé. » « C'est vrai, mon père ? » répondit-il. « Oui, c'est vrai, » dit le curé. « Ta confession est excellente. Va-t'en, tu ne risques plus rien. » Et puisque je me suis confessé et que j'ai reçu l'absolution, si à cette heure je mourais, n'irais-je pas au paradis ? Dit l'ivrogne. Directement, directement, sans faute, dit le prieur, sans aucun doute. Puisque c'est comme ça, dit l'ivrogne, et que je suis prêt maintenant, je veux mourir tout de suite, afin d'y aller directement. Il saisit son couteau et le donna au prieur, en lui demandant et en le priant de lui couper la tête, afin qu'il allât au paradis. « Ah ça alors, dit le prieur tout ébahi, il n'est pas besoin de s'y prendre de la sorte, tu iras bien au paradis, mais par un autre chemin. »« Non, répondit l'ivrogne, je veux y aller tout de suite et mourir ici, de votre propre main. Avancez-vous et tuez-moi. »« Je ne le ferai pas, dit le prieur, un prêtre ne doit jamais tuer. »« Si, vous allez le faire, mon père sacrebleu, et si vous ne vous dépêchez pas de le faire rapidement, et si vous ne m'envoyez pas au paradis, moi-même, avec mes deux mains que voici, je vous tuerai. » Et, à ces mots, il brandit son couteau et le mit sous les yeux du pauvre prieur tout épouvanté et sonné. Finalement, après qu'il eut réfléchi un peu, afin d'être débarrassé de son ivrogne qui était de plus en plus agressif envers lui et insistait pour qu'il lui ôtât la vie, il prit le couteau et s'en saisit en disant « D'accord, puisque tu veux mourir de ma main et aller au paradis, mets-toi à genoux ici devant moi. » L'ivrogne ne s'en fit guère prier et se laissa soudainement tomber de toute sa hauteur. Au bout d'un moment, non sans avoir longuement résisté, il se mit à genoux avec ses mains jointes et attendit le coup de couteau, pensant qu'il allait mourir. Le prieur, avec le dos du couteau, donna un puissant et massif coup sur la nuque de l'ivrogne, ce qui le fit tomber durement à terre. Mais ne vous préoccupez pas de savoir s'il va se relever car lui-même pense vraiment qu'il est arrivé au paradis. Et c'est dans cet état que le prieur l'abandonna, lequel, pour sa sécurité, n'oublia pas de prendre le couteau. Et, alors qu'il s'était un peu avancé, il rencontra un chariot chargé de gens, ces mêmes personnes qui, pour la plupart, étaient au même endroit où notre ivrogne avait fait le plein. Quelle heureuse coïncidence ! Auquel il raconta dans les moindres détails l'affaire en les priant de le remettre debout ainsi que de le conduire et de le raccompagner, s'il le voulait bien, chez lui. Il leur confia ensuite le couteau. Ils promirent de le charger sur le chariot et de le prendre avec eux. Et ensuite, le prieur partit. Ils n'eurent pas à parcourir beaucoup de chemin avant d'apercevoir ce brave ivrogne couché à terre comme mort, les dents dans la poussière. Et quand ils furent près de lui, tous, d'une seule voix, l'appelèrent par son nom. Mais ils eurent beau crier, rien n'y faisait. Certains descendirent alors de leur chariot, le saisirent par la tête, les pieds et les jambes et le levèrent en criant tant qu'il ouvrit les yeux. Et quand il se mit à parler, ce fut pour dire « Laissez-moi, laissez-moi, je suis mort. » « mais non, dirent ses compagnons, il faut que vous veniez avec nous. Ce n'est pas possible, dit l'ivrogne, pour aller où ? Je suis mort et je suis déjà au paradis. Vous allez venir avec nous, dirent les autres. Il nous faut aller boire. Boire ? Dit l'autre, je ne boirai plus jamais, car je suis mort. » Quoique ses compagnons aient pu lui dire ou lui faire, il ne voulait pas partir ni s'enlever de la tête qu'il était mort. Ces pourparlers durèrent longtemps et les compagnons ne savaient pas quoi inventer pour amener cet ivrogne qui avait perdu la tête. car, quoi qu'il lui dire, il répondait toujours « Je suis mort ». Finalement, l'un d'entre eux réfléchit et dit « Puisque vous êtes mort, vous ne pouvez pas rester ici sans avoir de sépulture comme une bête enfouie dans les champs. Venez, venez avec nous sur notre chariot, nous vous enterrerons au cimetière de notre ville, ainsi qu'il convient de le faire pour un chrétien. Autrement, vous n'irez pas au paradis. » Quand l'ivrogne entendit qu'il fallait encore l'enterrer avant de monter au paradis, il accepta d'obéir. Aussitôt, il fut recueilli et placé sur le chariot où il ne tarda pas à s'endormir. Le chariot était bien attelé et il fut rapidement arrivé à Chivelling où ce brave ivrogne fut déposé devant sa maison. On appela sa femme et ses serviteurs et on leur rendit le corps de cet honorable et saint homme qui dormait tant que ni le transport en chariot jusqu'à la maison ni la culbute sur le lit ne l'éveillèrent. Et c'est là qu'il fut enseveli entre deux draps où son sommeil de mort dura au moins 2 jours.
Merci Cathy. Donc on pourrait intituler cette nouvelle « Nuit d'ébriété au Moyen-Âge ». Donc vous le voyez, thème toujours un petit peu d'actualité. Alors pour conclure pour toi, puisqu'après je crois que tu vas devoir nous quitter, alors je voulais proposer la 53e nouvelle. Donc vous commencez déjà à percevoir les différentes tonalités. Donc là encore, une histoire où on n'y voit pas très très clair.
La 53e nouvelle par Monseigneur Lamant de Bruxelles. Il n'y a pas longtemps, dans l'église de Sainte Gudule de Bruxelles, il y avait très tôt le matin plusieurs hommes et femmes qui devaient se marier lors de la première messe qui se dit entre 4 et 5 heures du matin. Et parmi ceux qui devaient entrer dans ce doux et sécurisant état de mariage et promettre par la main du prêtre ce que pour rien au monde ils ne voudraient parjurer, il y avait un jeune homme et une jeune fille qui n'étaient pas parmi les plus riches mais qui avaient grand désir de se marier et qui se tenaient l'un près de l'autre, n'attendant qu'une seule chose, que le curé les appela pour se marier ensemble. Derrière eux, il y avait un homme âgé et une vieille femme qui avaient un grand nombre de richesses et beaucoup de biens et qui, par convoitise et grand désir d'avoir davantage, s'étaient promis foi et loyauté l'un envers l'autre et qui, pareillement, attendaient de se prendre pour époux à cette même messe. Le curé arriva et chanta cette messe tant attendue. Et à la fin, comme il est de coutume, se placèrent devant lui ceux qui devaient se marier. Et qui étaient nombreux ce jour-là, sans compter les 4 dont je vous ai déjà parlé. Or, vous devez savoir que ce bon curé, qui était parfaitement prêt devant l'autel pour réaliser et accomplir le mystère du mariage, était borgne, car il avait, je ne sais par quel méchant concours de circonstances, perdu récemment un œil. Et il n'y avait pas non plus beaucoup d'éclairage dans la chapelle ni sur l'autel. C'était encore l'hiver et il faisait assez sombre et noir. Aussi se trompa-t-il dans son choix. Car quand arriva le moment de la cérémonie de mariage, il prit le vieil homme riche et la jeune fille pauvre et les unit ensemble par l'anneau de l'église. De l'autre côté, il prit le jeune homme pauvre et le maria avec la vieille femme riche, ce dont personne ne se rendit compte à l'église, ni les hommes ni les femmes, ce qui est vraiment stupéfiant. Surtout pour les hommes, car ils osent davantage lever la tête lorsqu'ils sont agenouillés devant le curé que les femmes qui sont, à ce moment, timides et silencieuses et dont le regard est rivé au sol. Il est de coutume que, une fois la cérémonie du mariage achevée, les amis de la mariée la prennent avec eux et l'emmènent. Ainsi, la pauvre jeune fille fut-elle conduite à la maison de l'homme riche et de même, la riche vieille fut amenée dans la pauvre maisonnette du jeune garçon. Quand la jeune mariée se retrouva dans la cour et dans la salle principale de la maison de l'homme qu'elle avait épousé par erreur, elle fut très surprise et se rendit bien compte qu'elle n'était pas partie de cet endroit ce jour-là. Quand elle se rendit dans la chambre d'apparat qui était tendue de splendides tapisseries, elle découvrit un grand et beau feu de cheminée, une belle table mise où le somptueux déjeuner était déjà servi. Elle remarqua le beau buffet richement garni de vaisselle, elle en fut plus ébahie encore qu'auparavant et s'en étonna encore davantage, ne reconnaissant personne parmi les gens qu'elle entendait parler. Elle fut aussitôt débarrassée de son capuchon qui masquait bien et dissimulait ses traits. Et lorsque son époux la vit à visage découvert, ainsi que tous les autres qui y étaient présents, vous pouvez croire qu'ils furent autant surpris que si des cornes leur poussaient sur la tête. « Comment ? Dit le mari, est-ce là ma femme ? Notre-Dame, je suis fort heureux. Elle a beaucoup changé depuis hier. Je crois qu'elle a été à la fontaine de Jouvence. Nous ne savons pas, dire ceux qui l'avaient amenée, d'où elle vient, ni ce qu'on lui a fait. Mais nous savons avec certitude que c'est celle que vous avez épousée aujourd'hui et que nous avons prise à l'autel, car depuis, elle n'a pas quitté notre bras. » L'assemblée fut sidérée et resta longtemps silencieuse. Quant à elle, la pauvre mariée, quoique interdite et ébahie, elle était toute malheureuse et pleurait doucement à chaud de larmes, ne sachant que faire. Elle aurait de loin préféré se retrouver avec son mari qu'elle pensait avoir épousé le jour même. Le mari, la voyant ainsi désespérée, en eut pitié et lui dit « Mon ami, ne vous désespérez pas. Vous êtes tombée dans une excellente maison par la grâce de Dieu et n'ayez crainte, on ne vous fera jamais de mal ici. Mais dites-moi, s'il vous plaît, qui vous êtes et, à votre avis, ce que vous faites ici ?» Quand elle l'entendit s'exprimer avant autant de courtoisie, elle reprit un peu confiance et lui donna le nom de son père et de sa mère et dit qu'elle venait de Bruxelles, qu'elle était fiancée à un tel, qu'elle lui nomma, et qu'elle pensait en vérité l'avoir épousée. Le mari et tous ceux qui étaient présents se mirent à rire et dirent que le curé leur avait joué un bien joli tour. « Loué soit Dieu pour cet échange !» rétorqua le marié. « Je ne voudrais pas mésestimer ce cadeau que Dieu m'a fait en vous envoyant à moi, et je vous promets ma foi de vous être d'une agréable compagnie. » « Mais non, dit-elle en pleurant, vous n'êtes pas mon mari, je veux revenir auprès de celui à qui mon père m'a donné. »« Ce ne pourra pas être possible, dit-il, je vous ai épousée devant la Sainte Église et vous ne pouvez pas vous parjurer. Vous êtes et vous demeurerez ma femme et réjouissez-vous, vous avez bien de la chance. » J'ai, Dieu merci, beaucoup de richesses dont vous serez souveraine et maîtresse et je vous donnerai beaucoup de bonheur. Il lui fit un si beau prêche, ainsi que tous ceux qui étaient là, qu'elle accepta de lui obéir. Ils dînèrent légèrement et partirent se coucher. Le vieil homme fit du mieux qu'il put. Revenons-en à présent à la vieille et au jeune garçon. Pour faire bref, elle fut conduite à la maison du père et de la fille qui, à cette heure, était couchée avec le vieillard. Quand elle se trouva là-bas, elle pensa devenir folle et dit tout haut « Qu'est-ce que je fais ici ?» Pourquoi ne m'amène-t-on pas chez moi ou à la demeure de mon mari ? Le mari, qui aperçut cette vieille et l'entendit parler, en fut stupéfait, ainsi que son père, sa mère et tous ceux qui étaient présents. Le père de la jeune fille et sa mère bondirent, reconnaissant la vieille et étant au courant de son mariage, et dirent « On vous a donné, mon gendre, la femme d'un tel, et croyez bien qu'il a la vôtre. » Et c'est de la vôtre de notre curé qui et c'est de la faute de notre curé qui y voit si mal. Et que Dieu en soit témoin, bien que je me sois trouvé loin de vous quand vous avez épousé ma fille, j'ai cru m'apercevoir de cet échange. Que dois-je faire ? Dit le mari. Ma foi, dit son beau-père, je ne m'y connais pas très bien, mais je crains fort que vous ne puissiez avoir une autre femme. Saint Jean, dit la vieille, je ne le veux pas pour mari. Je n'ai rien à faire d'un tel gringalet. Je serais bien lotie avec un jeune freluquet qui en aurait rien à faire de moi et qui dilapiderait ma fortune et qui, si j'osais ouvrir la bouche, me fracasserait la tête. Allez-vous-en, allez-vous-en. Faites venir votre femme et laissez-moi aller là où je dois aller. Notre-Dame, dit le mari, si je peux la récupérer, je la préfère sans aucun doute à vous. Quand bien même elle est pauvre. Mais vous ne partirez pas d'ici si je ne peux pas la retrouver. » Son père et quelques-uns des membres de sa famille se rendirent à la demeure où la vieille souhaitait aller. Ils y allèrent trouver les convives qui étaient en plein banquet et qui préparaient le pot de chambre pour le porter au mari. Ils leur exposèrent l'affaire, mais on leur répondit « Vous arrivez trop tard, que chacun s'en tienne à ce qu'il a dit. Le maître de ces lieux est content de la femme que Dieu lui a donnée. Il l'a épousée et il n'en veut pas d'autre. Et ne vous en plaignez pas. Vous n'avez jamais été aussi heureux de pouvoir faire une si haute alliance. Vous serez d'un seul coup tous riches. » Ce brave père s'en retourna chez lui et alla faire son rapport, ce dont la vieille crut faire une crise de rage. « Vraiment, dit-elle, suis-je à ce point trompée ? Par Dieu, les choses ne vont pas en rester là, ou bien la justice me fera défaut. » Si la vieille était fort mécontente, le jeune mari l'était autant, voire davantage, qui se voyait privé de ses amours, et encore l'eût-il mieux supporté s'il avait pu avoir prise sur la vieille et sur son argent. Mais impossible. Il dut se résoudre à la laisser rentrer chez elle, tant elle lui menait la vie dure. On lui conseilla de la faire citer à comparaître devant Monseigneur l'évêque de Cambrai, et elle, pareillement, fit citer à comparaître le vieil homme qui avait la jeune femme. Et ils ont entamé un lourd procès, dont le jugement n'a pas encore été rendu, ce qui fait que je ne peux pas vous en dire davantage.
Alors, 3 points de suspension pour cette nouvelle qui nous cligne de l'œil, avec ce curé borgne. Cette bêtise de Cambrai aussi. Alors, je vais remercier Cathy Bernard, donc ma collègue, et puis laisser la parole à un autre collègue dans la circulation du livre. Donc, vous voyez, une lecture très médiévale. On va continuer sur ce recueil des 100 nouvelles nouvelles. Alors, je vous rassure, on ne les fera pas toutes, hein, on ne fera pas les 100. Voilà, mais quelques-unes pour vous montrer cette hétérogénéité de la matière.
La 14e nouvelle par Monseigneur de Créqui, chevalier de l'ordre de Monseigneur. La grande et vaste province de Bourgogne n'est pas tant dépourvue de plusieurs aventures dignes d'être mises en mémoire et écrites que, pour fournir les histoires qui à présent ont cours, je ne redoute pas de mettre en avant et me faire l'écho de ce qui s'y est passé il y a peu. Assez près d'un important et riche village construit près de la rivière Douche, il y avait et il y a encore une montagne sur laquelle, Dieu peut m'en être témoin, vivait un ermite. Cet ermite, sous l'ombre du manteau de l'hypocrisie, faisait des miracles qui ne vinrent pas à la connaissance ni à la notoriété publique du peuple, jusqu'à ce que Dieu ne supportât et ne permît plus son très condamnable abus. Ce saint ermite, qui penchait plus vers la tombe que vers le berceau, n'était pas moins luxurieux qu'un vieux singe peut être malicieux. Mais sa manière de se comporter était tellement subtile qu'il faut avouer qu'elle surpassait les ruses habituelles. Voyez donc ce qu'il fit. Il observa que parmi toutes les femmes et les jolies filles qui étaient ses voisines, la plus digne d'être désirée et aimée était la fille d'une veuve un peu simple, très dévote et portée à faire l'aumône. Il se dit ainsi en lui-même que si son habileté ne lui faisait pas défaut, il en viendrait bien à bout. Un soir vers midi environ. Vers minuit en environ, alors qu'il faisait noir et mauvais temps, il descendit de sa montagne et se rendit au village. Et il emprunta tant de voies et de petits chemins que, sous le toit de la mère et de la fille, sans avoir été entendu de personne, il se trouva seul. La maison n'était pas bien grande et il avait tellement eu l'habitude de s'y rendre tout en dévotion qu'il en connaissait parfaitement tous les recoins. Il s'approcha alors d'un trou qui se trouvait dans un mur très fin, contigu au lit de cette veuve un peu simplette. Il prit un long bâton dont il s'était muni, qui était creux et percé de bout en bout, et, sans réveiller la veuve, le plaça près de son oreille et dit à voix basse et par 3 fois « Écoute-moi, créature du Seigneur, je suis un ange du Créateur qui m'envoie auprès de toi pour t'annoncer et t'ordonner par les plus hauts biens qu'il a voulu placer en toi qu'il veut un enfant de ta chair, c'est-à-dire de ta fille, pour rassembler son épouse l'Église, pour la réformer et pour la remettre dans l'état qui doit être le sien. Et voilà de quelle façon. Tu t'en iras voir dans la montagne le saint ermite, et tu lui amèneras ta fille. Et dans le moindre détail, tu lui raconteras ce que Dieu, à présent, par mon entremise, te commande. Il connaîtra ta fille et deviendra un fils, élu de Dieu, dont la destinée sera d'occuper le Saint-Siège de Rome et qui accomplira tant de bienfaits qu'on pourra le comparer à Saint-Pierre ou à Saint-Paul. Je m'en vais à présent. Obéis à Dieu. » Dans sa simplicité, la femme, qui était tout à la fois très ébahie, très surprise et à demi transportée, pensa vraiment que Dieu lui avait envoyé ce message. Elle se dit en son fort intérieur qu'elle ne désobéirait pas. Elle mit beaucoup de temps à se rendormir d'un sommeil léger, attendant et désirant très fort le lever du jour. Et pendant ce temps, le bon ermite reprit le chemin de sa retraite sur la montagne. Finalement, ce jour très désiré fut annoncé par les rayons du soleil qui, malgré les vitres des fenêtres, descendirent dans la chambre et firent mère et fille se lever en toute hâte. Quand elles furent prêtes et disposées à partir, après avoir fait un brin de ménage, l'adorable mère demanda à sa fille si elle n'avait rien entendu la nuit passée. Cette dernière lui répondit : « En vérité, mère, rien du tout. Ce n'est pas à toi, ajouta-t-elle, que ce doux message s'adresse en priorité, même s'il te concerne au plus haut point. » Elle lui raconta en détail l'angélique nouvelle que cette nuit Dieu lui avait envoyée. Elle lui demanda aussi ce qu'elle en pensait. La gentille fille, tout comme sa mère, simple et dévote, répondit « Dieu soit loué, que ce qui vous plaise, ma mère, soit fait. » « C'est très bien, conclut la mère. Allons maintenant dans la montagne, à la demande du divin ange, voir le saint homme. » Là, le bon ermite, qui faisait le guet, attendant que la vieille dupe lui amenât sa simplette de fille, la fit venir. Il laissa sa porte entrouverte et alla se mettre en prière au milieu de sa chambre, afin qu'on le trouvât en dévotion. Et cela se passa comme il le souhaitait, car la brave femme et sa fille, voyant la porte entrouverte, sans demander plus d'explications, entrèrent, et elles virent alors l'ermite en contemplation. Et comme s'il s'agissait de Dieu, l'honorèrent. L'ermite, la voix humble et cassée, les yeux tournés vers le sol, salua des deux femmes au nom de Dieu. Et la petite vieille, désirant l'informer de la raison qui l'a menée, le tira à part et se mit à lui raconter du début jusqu'à la fin toute l'histoire, qu'il savait mieux qu'elle. Et pendant qu'elle rapportait ce qui s'était passé, avec les marques du plus grand respect, le bon ermite jetait ses yeux au ciel, levait très haut ses mains jointes, et la vieille pleurait, tant elle éprouvait de la joie et de la pitié. Quand son récit fut entièrement achevé et que la vieille attendait sa réponse, celui qui devait la donner ne se hâta pas. À la fin, au bout d'un certain temps, il ouvrit la bouche et dit « Dieu soit loué ». « Mais mon ami, dit-il, êtes-vous vraiment certaine et intimement convaincue que tout ce que vous venez de me dire est vrai et n'est pas une illusion ou le fruit de votre imagination ? Qu'est-ce que votre cœur, qui est seul juge, en pense ? Sachez que la chose est grave. Avec certitude, cher père, j'ai entendu la voix qui m'apporta cette joyeuse nouvelle aussi clairement que je vous entends. Et soyez assuré que je ne dormais pas. » « C'est bien, dit-il. Non pas que je veuille contredire la volonté de mon Créateur, mais il me semble bon que vous et moi réfléchissions encore une nuit à cela. Et si vous avez une nouvelle vision, vous viendrez me trouver ici et Dieu vous donnera un bon conseil et un bon avis. On ne doit pas trop facilement croire, ma chère sœur. Le diable, parfois envieux d'autrui, connaît toutes les ruses et se transforme en un ange de lumière. Croyez, ma sœur, que ce n'est pas rien cette histoire. Et si j'y mets quelques réticences, ce n'est pas surprenant. N'ai-je pas fait vœu de chasteté à Dieu ? Et vous me demandez de le rompre en son nom. Rentrez chez vous et priez Dieu. Et quant au reste, nous verrons bien demain ce qu'il en est. Et allez dans la paix du Seigneur. » Après bonne manière, la petite troupe prit congé de l'ermite et s'en retourna chez elle en grande conversation. Bon, pour abréger, notre ermite, à l'heure accoutumée, attendue, muni du bâton en guise de petite crosse, reprit sa place près de l'oreille de la brave femme, disant les mêmes mots, ou en tout cas le même contenu que la nuit précédente. Une fois cela accompli, il revint à toute vitesse chez lui. La vieille, saisie de joie, pensant avoir pris Dieu au collet, se leva de bonne heure, raconta les nouvelles à sa fille en toute certitude, en confirmant la vision de la nuit passée. On ne peut qu'abréger. Allons dès à présent voir le saint homme. Et elles se mirent en route. Lui, les voyant approcher, alla chercher son bréviaire et recommença son oraison. Et dans cette posture, devant la porte de la maisonnette, se laissa saluer par ces braves femmes. Si la veille, elle lui avait fait un spectaculaire récit de sa vision, celui du jour n'eut rien à lui envier. Et le sage homme se signa et s'émerveilla en disant « Est-ce vrai, Dieu, que cela ? Fais de moi ce qu'il te plaît. » Quoique sans le secours de ton immense grâce, je ne serais pas digne d'exécuter une si grande mission. Mais regardez, mon cher père, dit alors la brave femme, vous voyez bien que c'est vrai, puisque l'ange m'est apparu de nouveau. En vérité, ma sœur, ce sujet me dépasse tellement par sa difficulté et sa rareté que je ne sais que vous en donner une réponse pleine de prudence, dit l'ermite. Non pas évidemment que je veuille, comprenez-moi bien, vous faire attendre la troisième apparition pour que vous mettiez Dieu à l'épreuve. Mais on dit d'habitude, la troisième fois est la bonne. Je vous prie et vous demande que vous passiez encore cette nuit sans rien faire d'autre, en attendant sur ce point la grâce de Dieu. Et si par sa miséricorde il se manifeste cette nuit comme les nuits précédentes, nous ferons tant qu'il en sera glorifié. Ce ne fut pas de bon cœur pour la brave vieille que de tarder tant à obéir à Dieu. Mais au bout du compte, l'ermite fut tenu pour le plus sage. Alors qu'elle était couchée au plus profond de ses pensées, où ses nouvelles défilaient dans sa tête, l'hypocrite pervers, descendu de sa montagne, lui mit son bâton dans le creux de l'oreille, en lui commandant, au nom de Dieu dont il était l'ange messager, qu'elle amena une fois pour toutes sa fille à l'ermite, pour la raison qui a été dite ci-dessus. Et dès que le jour se leva, elle n'oublia pas cette mission, car après que sa fille et elle eurent rendu grâce à Dieu, elles se mirent en chemin en direction de l'ermitage, où l'ermite vint à sa rencontre, et par Dieu les salua et les bénit. Et la brave mère, plus joyeuse que n'importe qui, ne lui cacha pas longtemps sa nouvelle apparition. Et l'ermite, qui par la main la tint, l'accompagna dans sa chapelle, suivie par la fille. Et là, tous ensemble, ils se mirent à faire leur dévote prière à Dieu le Tout-Puissant, qui avait daigné leur révéler ce très haut mystère. Après un bref sermon de l'ermite, touchant aux songes, aux visions, aux apparitions et aux révélations qui surviennent souvent aux hommes, on évoqua la raison pour laquelle ils étaient rassemblés ici. Et imaginez bien que l'ermite prononça un magnifique prêche, empreint d'une grande piété. Dieu le sait. Puisque Dieu veut, exige que je donne naissance à une lignée papale, vraiment, et qu'il daigna le révéler non pas une fois ou deux seulement, mais bien une troisième et généreuse fois, il faut croire, dire et conclure qu'un très grand bienfait découlera de cette action. Il me semble, et c'est là mon avis, que l'on ne peut pas faire mieux que de se dépêcher à la réaliser, parce que j'ai attendu trop de temps, peut-être, avant d'accorder foi à la sainte apparition. Vous dites bien, mon cher père, comment voulez-vous vous y prendre ? Répondit la vieille. Vous laisserez ici votre charmante fille, dit l'ermite, et elle et moi, nous nous mettrons en prière, et après, pour le reste, nous ferons ce que Dieu nous indiquera. La bonne vieille fut d'accord, tout comme sa fille, elle aussi prête à obéir. Je fais un peu de suspense. Quand notre ermite se trouva seul avec la jolie fille, il la fit mettre toute nue, comme s'il voulait la baptiser de nouveau. Et pensez bien qu'il ne resta pas longtemps habillé. À quoi bon tout raconter dans le détail ? Il la retint tant et si longuement avec lui, en lieu et place de Claire. Il vint la voir si souvent chez elle, et même les gens commençaient à se poser des questions, que son ventre commença à se soulever, ce dont elle fut tant heureuse qu'on ne saurait le dire. Mais si la fille se réjouissait de sa descendance, sa mère en avait 100 fois plus de fierté. Le maudit bigot feignait aussi de s'en réjouir, mais il fulminait au plus haut point. Cette pauvre mère abusée, pensant pour de vrai que sa tendre fille devait concevoir un très beau garçon pour le temps futur où Dieu l'élirait pape de Rome, ne put tenir sa langue plus longtemps et le raconta à sa voisine la plus intime, qui en resta aussi ébahie que si des cornes venaient de lui pousser sur la tête, non pas cependant qu'elle soupçonna la supercherie. Elle-même ne le cacha pas longtemps aux autres voisins et voisines, racontant comment la fille de Machine était enceinte par les œuvres du Saint-Ermite d'un fils qui devait être le futur pape de Rome. « Et tout ce que je sais, dit-elle, je le tiens de sa propre mère, à qui Dieu a bien voulu le révéler. » Cette nouvelle fut aussitôt répandue dans les villes voisines. Et pendant ce temps, la fille accoucha à terme, et ce fut une très belle petite fille. Ce dont elle fut très ébahie et très en colère, tout comme sa simplette de mère, et les voisines de même, qui s'attendaient vraiment à accueillir le futur Saint-Père. La nouvelle de cette affaire fut aussi vite sue que la précédente. Entre autres, l'ermite en fut l'un des premiers avisés et avertis, et il s'enfuit sur le champ dans un autre pays, je ne sais lequel, pour tromper une autre femme ou une autre jeune fille, ou bien s'exila, le cœur contrit, dans les déserts d'Égypte pour faire pénitence afin d'expier son péché. Quoi qu'il en soit, ou quoi qu'il en fût, la pauvre fille fut déshonorée, ce qui fut une bien grande perte, car elle était belle, bien élevée et pleine de bonté. La 93e nouvelle, par messire Timoléon Vigné, gentilhomme de la chambre de Monseigneur. Profitant de mon bon public, je veux raconter une histoire très amusante qui s'est passée au bon et agréable pays de Hainaut. Bienvenue au Hainaut. Dans un gros village du pays que je viens de nommer, se trouvait une noble femme mariée qui aimait beaucoup plus le clerc qui servait de sacristain à l'église de sa paroisse que son mari. Et pour trouver un moyen de se retrouver avec le sacristain, elle dit en montant à son mari qu'elle allait à un pèlerinage pour rendre grâce à un quelconque saint qui avait son culte non loin de là, à une lieue environ. Elle avait fait ce vœu au moment où elle accouchait, et elle lui demanda d'accepter qu'elle s'y rendît le jour qu'elle lui indiqua, avec l'une de ses voisines qui y allait aussi le même jour. Le bon idiot de Marie, qui ne se doutait de rien, lui accorda d'aller en pèlerinage à la condition de revenir le jour même de son départ. « Je reviendrai peut-être pour le dîner, dit-elle, en fonction du temps qu'il nous faudra. Mais tout d'abord, ajouta-t-elle, il faut que je me procure une paire de bons souliers. Tout lui fut généreusement accordé. Et parce que le mari allait rester tout seul, il lui demanda de lui préparer son déjeuner et son dîner en même temps, avant de partir, sinon il irait manger à la taverne. Elle fit ce qu'il lui avait demandé. Le jour de son départ, elle se leva très tôt pour aller à la boucherie. Elle prépara un bon poulet, une pièce de mouton, et envoya ensuite chercher le cordonnier qui lui mit ses souliers. Quand tous ses préparatifs furent terminés, elle dit à son mari que tout était prêt et qu'elle allait chercher de l'eau bénite pour pouvoir ensuite partir. Elle entra dans l'église et le premier homme qu'elle rencontra fut exactement celui qu'elle cherchait, à savoir son sacristain, à qui elle raconta ses nouvelles, comment elle avait la permission de partir en pèlerinage, etc., pour toute la journée. « Mais il y a mieux, dit-elle. Je suis sûre qu'aussitôt qu'il verra que je suis sortie de la maison, il s'en ira à la taverne et ne reviendra pas avant le soir très tard, je le connais bien. Et je préfère donc rester à la maison pendant qu'il n'y sera pas, plutôt que d'aller dehors. » Ainsi, vous vous rendrez d'ici une demi-heure aux abords de notre maison, afin que je vous fasse rentrer par derrière s'il se trouve que mon mari n'est plus là. Et s'il y est, nous irons faire notre pèlerinage. Elle rentra donc chez elle, où elle trouva son mari, ce qui ne la réjouit pas. Il lui dit « Mais comment, vous êtes toujours ici ?»« Je m'en vais, dit-elle, chausser mes souliers, et ensuite je ne tarderai pas à partir. » Elle partit chez le cordonnier, et tandis qu'elle se faisait chausser, son mari passa devant la maison du cordonnier avec l'un de ses voisins, avec qui il avait l'habitude d'aller à la taverne. Elle supposa que, parce qu'il était accompagné de ce voisin, il s'en irait sur les banquettes. Mais ce n'était pas dans ses intentions. Il partait au marché pour trouver encore un ou deux compagnons afin de les inviter à déjeuner chez lui, car il avait de quoi manger pour plus d'une personne, à savoir le poulet et la pièce de mouton. Bon, laissons ici notre mari chercher de la compagnie et retournons à celle qui chaussait ses souliers. Et qui, sitôt qu'elle fut chaussée, revint chez elle le plus vite possible, où elle trouva le gentil sacristain qui faisait une procession autour de sa maison. À qui elle dit « Mon ami, nous sommes les plus heureux du monde, car j'ai vu mon mari qui allait à la taverne. J'en suis sûr parce qu'il était bras dessus avec l'un de ses amis qui ne manquera pas de le retenir quand il voudra partir. » C'est pourquoi donnons-nous du bon temps jusqu'à la nuit tombée. J'ai préparé un bon poulet, une belle pièce de mouton, dont nous ferons fête. » Et sans rien ajouter d'autre, elle le fit entrer et laissa la porte devant entrouverte, afin que les voisins ne puissent se douter de rien. Revenons à présent à notre mari, qui a trouvé de bons amis à lui, sans compter le premier dont j'ai parlé, qu'il conduit chez lui pour régler son compte au poulet, avec le soutien d'un excellent vin de bonne ou un autre meilleur, s'il est possible d'en dénicher un. Arrivant chez lui, il entra le premier. Dès son arrivée, il aperçut nos deux amants qui faisaient un peu d'exercice. Et quand il vit sa femme qui avait les jambes relevées, il lui dit qu'elle faisait très attention à ne pas user ses souliers et qu'elle avait sans raison tourmenté le cordonnier, puisqu'elle voulait faire son pèlerinage de la sorte. Il appela ses compagnons et dit « Messieurs, voyez comment ma femme se préoccupe de mes intérêts. De peur d'user ses beaux souliers neufs, elle chevauche sur son dos. Peu d'hommes peuvent dire qu'ils ont une telle femme. » Il prit un petit morceau de poulet qui restait et lui dit d'achever son pèlerinage. Puis il referma la porte et la laissa avec son sacristain, sans rien lui dire d'autre. Et il s'en alla à la taverne. Ce qui ne lui valut aucune récrimination au retour, contrairement aux autres fois où il s'y rendait, parce qu'il n'avait rien dit, ou quasi rien dit, au sujet de ce pèlerinage que sa femme avait fait à domicile.
Merci. Je vais passer. Okay. Alors, je vais prendre la main pour conclure. Mais en vous racontant encore d'autres histoires sur ces pérégrinations. Donc, ça sera la 19e nouvelle par Philippe Vignier, écuyer de Monseigneur. Alors, vous la connaissez peut-être, pour certains, c'est l'enfant qui fut remis au soleil, hein, ça vient d'un fabliau. Un ardent désir de voir du pays, de savoir et de connaître plusieurs expériences qui surviennent chaque jour, à travers le vaste monde, brûla naguère si fort, le cœur hardi et l'esprit valeureux d'un bon et riche marchand de Londres en Angleterre, qu'il abandonna sa belle et bonne épouse et son riche foyer. Enfants, parents, amis, comme son héritage et la plupart de ses biens. Il quitta donc le royaume, très largement et très richement pourvu, muni d'argent comptant et d'une très grande quantité de marchandises que le pays d'Angleterre peut fournir aux autres, comme l'étain, le riz et une multitude d'autres choses sur lesquelles, pour faire bref, je passe. Ce premier voyage occupa notre bon marchand 5 années, durant temps pendant lequel sa tendre épouse s'employait à rester chaste et à gagner de l'argent en vendant des marchandises. Ce qu'elle fit tant et si bien que son mari, de retour après 5 ans, la couvrit d'éloges et l'en aima d'autant plus. Le cœur du mari, qui n'était pas encore rempli ni d'avoir vu et connu de nombreuses choses extraordinaires et merveilleuses, ni d'avoir gagné énormément d'argent, retourna sur la mer 5 ou 6 mois après être rentré chez lui. Il repartit à l'aventure en pays lointain, chez les chrétiens, mais aussi chez les sarrasins, et il resta si longtemps absent que 10 années se furent écoulées avant que sa femme ne le revît. Bien sûr, il lui écrivit très souvent pour qu'elle sache qu'il était toujours en vie. Mais elle, qui était jeune et bien faite, à qui les dons de Dieu ne faisaient pas défaut, à l'exception de la présence de son mari, fut contrainte, à force d'attendre, de prendre un remplaçant, qui en peu de temps lui fit un très beau fils. Ce fils fut élevé, nourri et éduqué avec les autres, ses demi-frères. Quand le marchand, mari de sa mère, fut de retour, l'enfant avait environ 7 ans. Pour les deux époux, ce fut l'occasion de grandes réjouissances. Et alors qu'ils parlaient joyeusement et échangeaient d'agréables propos, la bonne épouse, à la demande de son mari, fit venir devant eux tous leurs enfants, sans oublier celui qu'elle avait eu en l'absence de celui qui lui avait donné son nom. Le bon marchand, en voyant la belle réunion de ses enfants et se souvenant très bien de leur nombre à son départ, en compta un de plus, ce qui l'étonna et le surprit beaucoup. Il demanda alors à sa femme qui était ce beau garçon, le plus petit de tous leurs enfants. « Qui est-ce » dit-elle. « Ma foi, mon mari, c'est notre fils. À qui d'autre pourrait-il bien être ?»« Je ne sais pas, » répondit l'autre, « mais comme je ne l'avais jamais vu, trouvez-vous extraordinaire que je vous le demande ?»« Par Saint-Jean, pas du tout, » dit-elle, « mais c'est notre fils. » »« Et comment donc est-ce possible ?» dit le mari. « Quand je suis partie, vous n'attendiez même pas d'enfant. » ?»« Non, c'est vrai, » dit-elle, « du moins pas à ma connaissance. » Mais je peux vous dire en toute vérité que cet enfant est le vôtre et que personne d'autre que vous n'a posé la main sur moi. Ce n'est pas non plus ce que je dis, ajouta-t-il, mais cependant, il y a 10 ans que je suis partie et cet enfant a l'air d'en avoir 7. Comment donc pourrait-il être de moi? L'auriez-vous porté plus longtemps que les autres? Je vous jure, dit-elle, que je n'en ai aucune idée, mais tout ce que je vous dis est la vérité. Et si je l'ai porté plus longtemps que les autres, je ne le sais pas. Et si ce n'est pas vous qui me l'avez fait avant de partir, je ne sais pas que penser de la manière dont il est arrivé, si ce n'est que, assez vite après votre départ, un matin, où j'étais dans notre grand jardin, tout à coup me vint une soudaine envie de manger une feuille d'oseille, qui était à ce moment-là cachée sous la neige qui la recouvrait entièrement. J'en choisis une au milieu des autres, belle et large, que je pensais avaler. Mais ce n'était qu'un peu de neige blanche et dure. Et je ne l'eus pas sitôt avalé que je me suis sentie soudainement dans le même état où je me suis trouvée quand j'ai porté mes autres enfants. De fait, au bout du compte, je vous ai fait ce très beau fils. Le marchand se rendit compte aussitôt qu'il faisait partie de nos amis les cocus, mais il ne voulut rien montrer et s'évertua à confirmer par ses paroles la belle histoire que sa femme lui avait vendue. Il lui dit « Ma chère, ce que vous me dites n'est pas impossible. » Et la même chose est arrivée à d'autres que vous. Que Dieu soit loué. Si l'enfant qu'il nous a donné est le fruit d'un miracle ou de quelque autre mystère qui nous échappe, il n'a pas oublié de nous envoyer la fortune pour l'entretenir. Quand la bonne épouse vit que son mari voulait bien accepter de croire ce qu'elle lui avait raconté, elle n'en fut pas peu joyeuse. Le marchand, sage et prudent, durant les 10 longues années qu'il passa dans son foyer, sans entreprendre ses lointains voyages, n'eut jamais à l'égard de sa femme une parole ou un geste qui ait pu lui laisser supposer qu'il avait compris quelque chose à la faire, tant il était généreux et patient. Mais il n'était pas encore rassasié de voyager. Il voulait repartir et il l'annonça à sa femme, qui se montra très irritée et très fâchée. « Calmez-vous, lui dit-il, s'il plaît à Dieu et à notre Seigneur Saint-Georges, je reviendrai très vite. » Et puisque notre fils que vous m'avez fait lors de mon dernier voyage est déjà grand et habile et en âge de voir du pays et d'apprendre, il me semble bon de l'amener avec moi. Ma foi, dit-elle, cela me semble très bien et je vous en suis très reconnaissante. Ce sera fait, conclut-il. Là-dessus, il partit, amenant ce fils dont il n'était pas le père et auquel, depuis longtemps, il avait consacré ses pensées. ils eurent un vent si favorable qu'ils arrivèrent au port d'Alexandrie, où le bon marchand parvint à vendre la plupart de ses marchandises à bon prix. Et il ne fut pas si bête. Afin de ne plus avoir la charge de l'enfant de sa femme et d'un autre, et que, après sa mort, il n'héritât de ses biens comme l'un de ses autres enfants, il se dit qu'il le vendrait comptant, à un bon prix, en qualité d'esclave. Et parce qu'il était jeune et robuste, il en tira près de 200 ducats. Au bout du compte, il revint en Angleterre, sain et sauf, Dieu merci. Et il n'est pas besoin de dire la joie que sa femme lui manifesta quand elle le vit en bonne santé. Mais elle n'aperçut pas son fils et ne sut pas quoi en penser. Elle ne put attendre davantage et demanda à son mari ce qu'il avait fait de son fils. « Ah, mamie, dit-il, je ne dois pas vous le cacher, il lui est arrivé malheur. »« Hélas, comment, dit-elle, s'est-il noyé ?»« Non, en vérité, dit-il, mais il est vrai que les aléas de la mer nous ont conduits de force dans un pays où il faisait si chaud que nous pensions tous mourir à cause de la chaleur ardente du soleil qui jetait ses rayons sur nous. Et alors qu'un jour nous étions sortis de notre bateau pour creuser dans le sable un trou où nous abritait du soleil, notre bon fils, qui, comme vous le savez, était fait de neige, et qui se trouvait alors devant nous sur la plage par la grande intensité du soleil, fondit d'un seul coup et fut transformé en eau. Et sans avoir eu le temps de dire « ouf », plus rien ne restait de lui. Tout aussi vite qu'il est venu au monde, tout aussi soudainement il a quitté. Et vous pouvez imaginer combien j'en étais et combien j'en suis affligée. Et je n'ai jamais rien vu d'autre parmi toutes les choses incroyables que j'ai pu observer, qui m'ait autant causé d'ébahissement. « Eh bien, dit-elle, puisqu'il a plu à Dieu de nous l'enlever comme il nous l'avait donné, loué soit-il. » Si elle pensa que les choses s'étaient passées autrement, l'histoire n'en dit rien et n'en fait pas mention, si ce n'est que son mari lui rendit la monnaie de sa pièce, quand bien même il demeura toujours le cocu de l'histoire. Alors voilà pour cette 10e nouvelle. Alors j'espère que vous avez pu goûter ces différentes nouvelles, ces différentes tonalités. Et justement, je voudrais vous lire une nouvelle qui parle de goût et de saveur et qui se construit sur une métaphore, mais une métaphore de la consommation. Alors, je vais vous lire pour ce faire la 10e nouvelle. Alors, la 10e nouvelle par Monseigneur de la Roche. On m'a rapporté plusieurs remarquables et admirables aventures qui se sont déroulées dans le royaume d'Angleterre, mais raconter maintenant la plupart d'entre elles ne serait pas d'un grand profit à la continuation de nos récits. Cependant, l'histoire que je vais vous raconter, pour continuer sur notre lancée et pour faire grossir le nombre de nos histoires, montrera comment un grand seigneur de ce même royaume d'Angleterre, qui était issu d'une des plus grandes familles et qui était riche, puissant et ambitieux, avait parmi tous ses nombreux serviteurs une parfaite confiance, privauté et amitié pour un jeune et gracieux gentilhomme de sa maison. Pour plusieurs raisons, tant pour sa loyauté, son dévouement, sa finesse, sa prudence, que pour toutes les qualités qu'il avait trouvées en lui, il ne lui cachait rien de ses amours. Et même, au bout d'un certain temps, ce gentilhomme était celui-là même qui lui procurait la plupart de ses bonnes aventures amoureuses, et ce pendant le temps où son maître était encore célibataire. Mais après un certain temps, suite au conseil de nombre de ses parents, amis et protecteurs, Monseigneur épousa une très belle, bonne et riche dame, ce dont tout le monde se réjouit. Et parmi les autres, notre gentilhomme, qu'on pouvait bien qualifier de favori, n'en était pas moins ravi, sentant en son fort intérieur que c'était pour le bien et l'honneur de son maître et qu'ainsi il serait tenu éloigné de certaines petites folies auxquelles il s'adonnait un peu trop. Il dit un jour à Monseigneur qu'il avait épousé une splendide et vertueuse femme et que, pour cette raison, il ne serait plus tenu de faire ici et là la cour en son nom, comme il en avait l'habitude. Ce à quoi Monseigneur répondit que ce n'était pas parce qu'il était marié qu'il allait rentrer dans le droit chemin et qu'il n'allait pas cesser d'être le gracieux serviteur de l'amour et que, bien au contraire, il voulait s'y employer et s'y consacrer davantage. Son favori, mécontent de cette disposition d'esprit, lui répondit que sa quête amoureuse s'était terminée le jour où l'amour l'avait dotée de celle qui était différente de toutes les autres, car elle était la plus belle, la plus sage, la plus loyale et la plus vertueuse. Et que, en ce qui le concernait, Monseigneur fasse ce qui lui plaisait, mais que lui, il ne porterait jamais, aussi longtemps qu'il vivrait, de message à une femme, si c'était au préjudice de sa maîtresse. « Je ne sais de quel préjudice vous parlez, dit son maître, mais vous devez pourtant parfaitement remettre en route mes affaires, trop longtemps laissées sans poursuite. » Auprès d'une telle et d'une telle, et ne pensez pas que je m'en moque davantage qu'à l'époque où je vous ai chargé la première fois de leur parler pour moi. Que diable, monseigneur, dit le favori, je ne sais que trop m'étonner de votre comportement. Il faut dire que vous prenez plaisir à tromper les femmes, ce qui, ma foi, est une bien vilaine action. Car vous savez bien qu'aucune de toutes celles que vous venez de nommer n'est comparable en beauté, ni en quoi que ce soit d'autre avec madame. À qui vous porteriez un coup mortel si elle apprenait votre soif de débauche. Et qui plus est, vous ne pouvez ignorer qu'en vous livrant à cela, vous damnez votre âme. Cesse ton prêche, dit le Seigneur, et va porter les messages, ainsi que je te l'ai commandé. Pardonnez-moi, monseigneur, dit le favori, mais un dernier mot. Je préférerais mourir plutôt que, par ma faute, naisse une querelle ou un conflit entre vous et madame, et que de plus, vous soyez éternellement damné. Je vous prie de partager mon point de vue, s'il vous plaît, car je n'en démordrai pas. » Monseigneur, qui vit son favori si entêté, n'insista pas plus pour le moment. Mais au bout de 3 ou 4 jours, sans rien laisser paraître de la précédente conversation, parlant de tout et de rien, il demanda à son favori quel était le plat qu'il préférait. Ce dernier lui répondit que rien ne lui plaisait davantage que le pâté d'anguille. Par Saint-Jean, c'est un plat délicieux, dit le maître. Vous n'avez pas fait un mauvais choix. Passé un moment, Monseigneur se retira et fit appeler auprès de lui ses maîtres d'hôtel, auxquels il ordonna, et il entendait bien être obéi, qu'à son favori ne soit servi aucun plat, à l'exception du pâté d'anguille, quoi qu'il puisse dire. Et ils lui répondirent qu'ils promettaient de respecter ses ordres, ce qu'ils firent à la perfection, car lorsque ce favori fut assis à table pour manger dans sa chambre, le jour même où furent donnés ses ordres, ses serviteurs lui apportèrent de somptueux et volumineux pâtés d'anguilles qu'on leur avait remis à la cuisine, ce dont il se réjouit beaucoup. Il en mangea tout son sou. Le lendemain de même, et les 5 ou 6 jours qui suivirent, toujours ses pâtés revenaient sur la table, ce dont il commençait déjà à se fatiguer. Il demanda alors à ses serviteurs si l'on ne servait plus ici que des pâtés. « Ma foi, monseigneur, dirent-ils, on ne nous donne rien d'autre. » Nous voyons bien évidemment que l'on sert dans la salle à manger et ailleurs d'autres plats. Mais pour vous, il n'est question que de pâté. Le favori, sage et prudent, n'ouvrant jamais la bouche pour se plaindre sans bonne raison, passa encore plusieurs jours, consommant ses ennuyeux pâtés, ce dont il n'était pas précisément ravi. Il réfléchit qu'un de ces jours, il irait dîner avec les maîtres d'hôtel. Mais ils lui firent servir, comme auparavant, des pâtés d'anguilles. « Sacrebleu, dit-il, j'en suis tellement gavé que je n'en peux plus. Il me semble ne rien voir d'autre que des pâtés. Et pour tout vous dire, c'est une histoire de fou. Vous m'avez fait le coup trop longtemps déjà. Il y a plus d'un mois que vous me jouez ce tour et j'ai tellement maigri que je n'ai plus force ni énergie. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont vous me traitez. » Les maîtres d'hôtel dirent qu'en vérité, ils ne faisaient rien d'autre que Monseigneur n'ait ordonné et que ce n'était pas de leur faute à eux. Notre favori, des pâtés jusqu'à la luette, ne supporta pas longtemps de tenir ses pensées secrètes et s'en ouvrit à Monseigneur. Il lui demanda pour quelle raison il lui avait fait servir si longtemps des pâtés d'anguilles et pourquoi il avait interdit à ce que, racontaient les maîtres d'hôtel, qu'on lui donnât autre chose. En guise de réponse, Monseigneur lui dit « Ne m'as-tu pas dit que ce que tu aimes le plus au monde comme plat, ce sont les pâtés d'anguilles ?»« Par Saint-Jean, Monseigneur, oui, dit le favori. » « De quoi te plains-tu donc ? » dit le Seigneur. « Je te fais donner ce que tu aimes. »« Aime ? » dit le favori. « Il y a façon et façon. Oui, j'aime effectivement beaucoup manger des pâtés d'anguilles, une fois, deux fois, trois fois ou plusieurs fois d'affilée. Et il n'y a pas d'autre plat que j'aime davantage que celui-là. Mais de là à dire que j'aimerais en manger tous les jours et rien d'autre, par Notre-Dame, jamais je ne le ferai. Tout le monde en ressortirait détruit et dégoûté. Mon estomac est si éreinté que, sitôt qu'il les sent, il a déjà dîné. « Mon Dieu, Monseigneur, ordonnez qu'on m'apporte autre chose pour que je puisse retrouver l'appétit, car sinon, je suis un homme perdu. »« Ah, enfin, dit Monseigneur, et ne penses-tu que je sois moi aussi tourmentée, toi qui veux que je me voue entièrement au corps de ma femme ? Tu peux imaginer, ma foi, que j'en suis aussi saturée que toi tu l'es de tes pâtés, et que volontiers je varierais les plaisirs avec une autre, même si je ne l'aime pas autant. Comme toi, avec un autre plat que tu n'aimes pas autant que tes pâtés. Et pour être bref, tu ne mangeras pas d'autre plat jusqu'à ce que tu me serves exactement comme par le passé, et tu me feras avoir les unes et les autres pour me changer les idées, tout comme toi tu veux changer de menu. » Le dévoué favori, quand il comprit les raisons de ce mystère et la subtile comparaison que Monseigneur avait faite, fut tout confus, se rendit à ses arguments et promit à son maître de faire tout ce qu'il voudrait afin d'être débarrassé de ses pâtés. Sur ce point, Monseigneur, pour changer vraiment de menu et pour faire de Madame une savoureuse exception, grâce au talent du favori, passa son temps comme il aimait le faire, avec de généreuses et belles femmes. Notre favori fut libéré de ses pâtés et s'attela de nouveau à son premier métier. Alors, mise en bouche dans ce menu pour arriver jusqu'au mot de la fin. Donc, je vais vous lire une dernière nouvelle qui sera la dernière de cette présentation, mais aussi la dernière du recueil des 100 nouvelles nouvelles et qui, là encore, va nous parler de saveur. Donc, c'est la 100e nouvelle. Alors, la 100 et dernière nouvelle, si vous le voulez bien, vous allez entendre, avant qu'il ne soit trop tard et sans plus attendre, ce récit bref, qui est ma petite contribution, à propos d'un éminent évêque d'Espagne qui, pour quelque affaire du roi de Castille, son maître, au moment de cette histoire, s'en allait en cour de Rome. Ce grand prélat, à qui je veux consacrer cette dernière nouvelle, arriva un soir dans une petite ville de Lombardie. Alors qu'il était arrivé ce vendredi assez tôt dans la soirée, il ordonna à son maître d'hôtel de préparer le dîner de bonne heure et de le rendre le plus agréable possible en fonction de ce qu'il pourrait trouver en ville. Car Dieu merci, bien qu'il fût gros et gras et qu'il se donnât du mal qu'à bon escient, il n'observait pas le jeûne dans la journée. Son maître d'hôtel, pour lui obéir, s'en alla au marché et fit le tour de tous les poissonniers de la ville pour trouver du poisson. Mais pour la faire courte, il n'en put trouver un seul morceau malgré tout le zèle dont lui et son hôte avaient fait preuve. Le hasard voulut que, s'en retournant tous deux à la maison sans poisson, ils rencontrèrent un brave paysan qui avait deux bonnes perdrix et qui ne demandait qu'à les vendre. Le maître d'hôtel se dit que, s'il pouvait les avoir à bon compte, il ne les laisserait pas échapper. Elles seraient parfaites pour dimanche et son maître en aurait une grande joie. Il les acheta alors et en tira un bon prix. Il retourna chez son maître, les deux perdrix à la main, bien vivantes, grasses et fort dodues, et lui raconta la disparition momentanée du poisson en ville, ce dont il était fort mécontent. Le prélat lui dit « Qu'allons-nous avoir à dîner ?»« Monseigneur, répondit le cuisinier, je vous ferai préparer des œufs de plus de 100 000 manières différentes. Vous aurez aussi des pommes et des poires. Notre hôte a aussi du bon fromage gras à souhait. Nous nous occuperons bien de vous. Prenez patience pour aujourd'hui, un dîner est bien vite passé. Vous serez plus à votre aise demain, si Dieu le veut. Nous irons à la ville qui est bien plus riche en poissons que ce village, et dimanche, vous ne manquerez pas de bien dîner, car voici deux perdrix que je me suis procurées, qui sont savoureuses à souhait et extrêmement dodues. » Maître évêque se fit porter les perdrix, et les trouva telles qu'elles étaient, parfaites en tout point. Il pensa alors qu'elle tiendrait parfaitement au dîner lieu de poisson, celui qu'il croyait avoir et qu'il n'avait pas, car on n'en avait pas pu s'en procurer. Il les fit tuer et en toute hâte plumer, entrelarder et embrocher. Le maître d'hôtel, voyant alors qu'il voulait les faire rôtir, fut tout ébahi et dit à son maître « Monseigneur, c'est bien de les avoir fait tuer, mais les rôtir tout de suite pour dimanche, ce n'est pas une bonne idée. » Ce maître d'hôtel perdait son temps car quelques démonstrations qu'il eût su faire à l'évêque, celui-ci ne voulut jamais l'entendre. Les perdrix furent donc mises à la broche et rôties. Tout le temps que les perdrix mirent à cuire, le bon prélat était présent la plupart du temps, ce dont son maître d'hôtel ne cessait de s'étonner largement parce qu'il ignorait à ce moment le désir démesuré que son maître avait alors de dévorer les perdrix, croyant au contraire qu'il agissait de la sorte pour être sûr de les avoir parfaitement prêtes pour le dîner du dimanche. Il les fit ainsi préparer, et quand elles furent fin prêtes et rôties, quand la table fut mise et le vin apporté, quand les œufs furent accommodés de diverses façons et prêts à être mangés, Le prélat s'assit alors, dit le bénédicité, et requit les fameuses perdrix avec de la moutarde. Son maître d'hôtel, désirant savoir ce que son maître voulait faire avec ses perdrix, les sortant tout droit de la broche, les lui mit devant le nez, alors qu'elles dégageaient un fumet si savoureux qu'elles auraient mis l'eau à la bouche de n'importe quel gourmand. Et le bon évêque d'attaquer ses perdrix et de mettre en pièces la meilleure d'entre elles. Il se mit lui-même à couper le pain à manger, car il avait une telle hâte qu'il ne laissa pas le temps à l'écuyer tranchant devant lui de préparer le pain et les couteaux. Quand le maître d'hôtel vit son maître s'attaquer aux perdrix, il en fut estomaqué et ne put se taire ni s'empêcher de dire « Ah, monseigneur, que faites-vous donc ? Êtes-vous juif ou sarrasin pour ne pas pouvoir respecter davantage le vendredi ? Par ma foi, je m'étonne beaucoup de vos agissements. » « Tais-toi, tais-toi, » dit le bon prélat, qui avait les mains toutes grasses et la barbe aussi, du jus de ses perdrix. « Tu es bête et tu ne sais pas ce que tu dis. Je ne fais aucun mal. » Tu sais parfaitement que, par nos paroles, moi et tous les autres prêtres, faisons d'une hostie, qui n'est que du blé et de l'eau, le précieux corps de Jésus-Christ. Ne puis-je donc pas, à plus forte raison, moi qui ai vu tant de choses à la cour de Rome et en tant d'autres lieux, savoir transformer par la parole ces perdrix, qui sont de chair, pour en faire des poissons, bien qu'elles gardent l'apparence de perdrix. C'est ce que je fais, grand Dieu, et il y a longtemps que je sais le faire à la perfection. » Elles ne furent pas sitôt mises à la broche que, par les paroles que je connais, je leur ai lancé une incantation telle qu'elles se sont changées en substance de poisson. Et vous tous qui êtes ici pourriez en manger comme moi sans péché. Mais pour les idées que vous pourriez vous en faire, elles ne vous feraient pas de bien. J'en assumerai donc tout seul le risque. Le maître d'hôtel et tous les autres de ses serviteurs se mirent à rire et firent semblant de croire la fable de leur maître, parfaitement bien tournée et imagée. Pour cette raison, et depuis lors, ils eurent beaucoup d'estime pour lui, et de nombreuses fois, et en divers lieux, la racontèrent. Ici se terminent les 100 nouvelles nouvelles. Alors, vous le voyez, les 100 nouvelles nouvelles se terminent sur ce plaisir du bon mot. Alors, juste un mot de conclusion. Vous voyez que ce recueil-là, comme ce recueil de nouvelles, a entendu célébrer cette circulation et cette histoire qu'on se re-raconte. Alors moi, pour ma part, je vous invite à vous les re-raconter, si certaines vous ont fait rire. Alors, ce sont parfois un peu des blagues à la Jean Roucas, mais en tout cas, ce sont des blagues tout à fait modernes, même si elles sont très médiévales. Voilà, je vous remercie.